Je dis bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Marie Miaillé, Katia, Julie, Marc Monturi, tu es ici. Michel Mimi, c'est écrit, Véronique, ainsi de suite. Hein. Freddy, il y a d'autres que j'ai. Véronique, bon écoutez, j'ai cité tout le monde, mais en tout cas, merci d'être connecté et merci à vous qui êtes là cet après-midi. Je suis content de vous voir, je vois Denis et sa famille quelque part. Salut les amis. Vraiment, merci Seigneur d'être là. Il y a vraiment la présence de Dieu et je suis juste ému d'être là cet après-midi et d'apporter la parole de Dieu. On a pris un peu de temps, mais je pense que la parole qui est là cet après-midi est simple et je vais essayer de ne pas être long du tout. Du tout. On est dans une série où on parle de « je choisis ». Je choisis. Tout à l'heure, Johan disait « il faut se positionner, c'est un choix ». Et quand je choisis de me positionner, il y a des choses qui se passent. Juste pour vous annoncer, petit teaser, dans les 2 mois à venir, on va continuer sur la série, mais avec un focus sur Jésus. On l'a chanté tout à l'heure, il y a eu plusieurs paroles, il y a eu le nom de Jésus, on a parlé du nom de Jésus. Je crois que le peuple de Dieu, on croit que le peuple de Dieu a besoin de, pas de redécouvrir, mais de continuer à aller en profondeur dans la découverte de qui est Jésus. Alors dans les 2 mois à venir, on va parler de « Je choisis Jésus ». Qui il est? Quelle est son œuvre? Quelle est sa mort à la croix, sa résurrection, son amour, sa compassion? On va découvrir toutes ces choses-là pendant les 2 mois qui viennent. Si tu ne connais pas Jésus, ce sera l'occasion. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus autour de toi, ce sera l'occasion de l'inviter. Et vous aurez des personnes comme Fabien, comme Céline Gatté, comme Marc, comme pasteur Romary, comme pasteur Mathieu, qui vont prêcher Laurence et apporter la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Ça va être bon. Ça va être bon. Aujourd'hui, regardons 2 choses. Enfin, 1 chose. Tour de Babel ou Pentecôte. C'est bizarre, j'ai mis ces 2-là en lien. Mais la parole est très simple. Il y a un choix à faire. Je choisis. Est-ce que tu veux la tour de Babel ou est-ce que tu veux vivre la Pentecôte? Certains vont dire, je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, on va faire une petite histoire. Je vais vous raconter l'histoire, ça va être simple, on ne va pas lire tous les versets. La tour de Babel est relatée dans Genèse 11, on va dire du verset 1 au verset 9. Et la Pentecôte dont on va parler est relatée dans Actes 2. Et ça va commencer au verset 1 jusqu'au 41. On ne va pas lire tout ça, juste que je vous présente les 2 histoires. Les 2 histoires ont des similitudes, je pense, pour ceux qui connaissent déjà l'histoire. Qu'est-ce qui se passe à la tour de Babel ? On vient de passer la période du déluge. Okay? Noé va sortir avec ses enfants et la Bible va raconter quelle est la descendance des enfants, des fils de Noé. Et juste après, il est dit que les gens parlaient une seule langue. C'était normal. C'était une seule famille qui s'est ensuite répandue. Et les gens parlaient une seule langue et ils étaient tous ensemble. Et ils ont dit, on lira plusieurs versets tout à l'heure, ils ont dit, allons-y, restons ensemble. C'est tellement bon d'être unis. L'unité est une bonne chose. Et je dis, amen, c'est bon. Restons ensemble et construisons une tour jusqu'aux portes du ciel. Et ils vont rester ensemble, ils vont commencer à bâtir cette tour. Et Dieu qui est intéressé par la vie des gens, par tout ce qu'on fait, par tous les projets que nous avons dans notre vie, Dieu va venir chaque jour pour regarder. Waouh, qu'est-ce qu'il fait Marc? J'aime bien le projet qu'il a sur son cœur et qu'il est en train de mettre en œuvre. Et Dieu va regarder ce peuple et il va dire, ah non, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On va le découvrir tout à l'heure. Et Dieu va apporter une sentence. Et la sentence c'est quoi? C'est qu'ils vont se retrouver subitement à parler des langues différentes. Ils vont plus comprendre. Il y a un qui va parler en chinois, l'autre il va parler en hébreu. Ça ne se comprend plus. Et donc, il y a comme une confusion et une dispersion tout de suite. Voici l'histoire de la tour de Babel. Je m'arrête là. Passons à la Pentecôte. Acte 2. Ce qui se passe à la Pentecôte, c'est que Jésus vient de partir. Il a prêché. Il est mort à la croix, il est ressuscité, il est resté plusieurs jours avec ses disciples en se montrant à plusieurs reprises, à leur enseigner et à la fin, il leur donne une mission, aller par tout le monde, annoncer la bonne parole et il va monter, il va partir. Et il va leur donner une instruction. Il va dire, attendez, Attendez à Jérusalem, attendez que le Saint-Esprit descende sur vous, et après vous serez mes témoins. Et les disciples vont partir, vont rester dans une chambre haute, et vont attendre. Ils vont attendre, ils vont prier. Seigneur, on attend ton Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça va se manifester? Donc on attend. On attend, on attend. Et un jour, et le jour de la Pentecôte, Dieu choisit ce jour-là en particulier pour faire descendre le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y avait comme des langues de feu sur eux et ils se sont mis à parler plusieurs langues. Vous voyez le lien entre les deux? Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ça me parlait. Et le Saint-Esprit me dit, regarde les deux événements, c'est formidable, il y a quelque chose à creuser pour nos vies. Et c'est très simple, ils vont se mettre à parler plusieurs langues, les langues des anges et la langue des hommes, les langues des hommes. Et vous savez quoi? À la Pentecôte, il y avait plusieurs personnes qui étaient venues à Jérusalem, comme en pèlerinage, et qui étaient là et qui les entendaient parler. Et ses disciples, qui n'étaient pas instruits, qui ne connaissaient pas les autres langues, se sont mis à parler sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ils ont parlé d'autres langues et ils parlaient dans les langues des gens qui étaient là. Et les gens, ils entendaient et ils disaient les merveilles de Dieu. Ils disaient les merveilles de Dieu. Les amis, ça a été raconté il y a plus de 2000 ans, mais je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu ma mère baptisée dans le Saint-Esprit en train de parler. Chez nous, on dit la langue d'Ida, bon voilà. Vous ne savez pas ce que c'est, mais en Côte d'Ivoire, il y a près de 70 dialectes dans un petit pays. On ne se comprend pas du village à l'autre, on ne se comprend pas du tout, on ne parle pas le même dialecte. En fait, le français nous réunit un peu, mais elle s'est mise à parler en plusieurs langues. Nous, on ne comprenait rien. Et il y avait une dame qui passait à l'extérieur, qui a entendu, en train de lui prêcher la parole de Dieu. Et elle a dit, mais elle est en train de parler de ma vie, dans ma langue. Et elle est rentrée. Et j'ai dit, waouh, j'avais 6 ans, quoi. Et quand je lis la parole de Dieu, je dis, mais c'est vrai. C'est vrai la parole de Dieu. C'est fort. Et ils ont parlé en plusieurs langues. Et les gens qui étaient autour ont entendu parler des merveilles du royaume de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? 3000 personnes se sont données à Jésus ce jour-là. 3000. Wow. On est combien? On est 150 cet après-midi. Il y a des gens qui disent, oh, les big church, les grandes églises, j'aime pas trop, ça discute, on apporte des messages, enfin des conversations théologiques, on débat sur grosse église, pas grosse église, c'est pas bien, c'est pas bien. Dieu a tranché, il a dit, première prédication, 3000 âmes qui se convertissent ici, ça c'est pas une grosse église. Mais après, tout se passe dans les maisons. Ah oui, tout se passe dans les maisons. Voici les deux histoires. D'un côté, on a des gens qui sont unis, et c'est très bien, tour de Babel, qui vont mettre en place un projet, et c'est très bien de construire, de faire quelque chose, c'est très bien. Mais ça va se terminer par la confusion et la dispersion. De l'autre côté, on a des personnes qui sont unies, idem, qui vont être ensemble dans un même projet que Dieu leur a donné, très bien, mais ça va se terminer par une bénédiction et par la gloire de Dieu. En science, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais là, le royaume de Dieu nous confond toujours. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Là, ce n'est pas le cas du tout. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que... quel est l'ingrédient qui fait qu'on arrive sur des situations différentes entre ces deux façons de faire? Et puis, il y a d'autres similitudes, on va arriver à la fin. C'est-à-dire que les gens... 2300 ans avant, parce que c'était 2300 ans environ avant la Pentecôte que la tour de Babel a pris place, 2300 ans avant, les gens vont se mettre à parler en plusieurs langues et vont se disperser. Et 2300 ans après, ce même élément qui a fait que les gens se sont dispersés sera utilisé pour que des gens se donnent à Dieu, pour qu'il y ait de l'unité même dans la diversion, dans la diversité. Merci. Et pasteur Romaric le disait dimanche dernier, dans l'unité, on peut être divers, mais on peut être unis. L'unité dans la diversité. Je voulais quand même le souligner avant d'aller plus loin. Alors, quels sont les ingrédients qui font la différence entre ces deux événements? Est-ce que tu as des projets dans ta vie? Si quelqu'un n'a pas de projet, là, c'est grave. Peut-être pour les enfants qui n'ont pas encore de projet, juste jouer au téléphone et manger le soir. Mais non. Est-ce que tu as des projets dans ta vie? Est-ce que tu commences, alors que tu commences à être conscient dans ta vie, en âge conscience, même étant enfant à un certain âge déjà, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on commence déjà à penser à des choses. Donc les adultes, j'imagine même pas le nombre de projets qui tournent dans vos têtes et dans la mienne. On a des projets dans la vie. Le tout, c'est de savoir, est-ce que ce projet-là a les ingrédients de la tour de Babel ou est-ce qu'il a les ingrédients de la Pentecôte? On peut tirer plusieurs messages de ces deux textes, mais j'aimerais mettre le focus là-dessus. Certains vont penser, on va parler d'unité. Oui, 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 on peut parler d'unité, exactement. Mais il y a autre chose, c'est vraiment quel est l'ingrédient qui fait que ça marche d'un côté et que ça ne marche pas de l'autre. Dans les deux, il y a de l'unité. Et Dieu n'est pas contre l'unité, vous êtes d'accord? Mais ça ne marche pas à la tour de Babel. Le premier élément que le Saint-Esprit m'a amené à comprendre pour moi-même et que je veux partager cet après-midi, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Regardez les deux situations. Prenons Genèse 11, verset 4. Je vous encourage à lire après ces deux histoires pour ceux qui ne connaissent pas. Je répète, l'histoire de la tour de Babel, c'est Genèse 11, verset 1 à 9. Et pour la Pentecôte, ce dont je vais parler, c'est acte 2, du verset 1 au verset 41. Ok ? Donc lisons le verset 4 de Genèse 11. « Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Voici la résolution, voici la finalité, voici l'objectif de ces gens à Babel à l'époque. Ils disaient « Mettons-nous ensemble, super, construisons une tour, super, mais pourquoi ?» afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. C'est noble comme projet. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Je ne sais pas, moi je ne vois rien de mal là-dedans. Mais vous savez ce qui se passe? En prenant cette résolution-là, ils sont en train de désobéir à un ordre de Dieu. Il est dit dans Genèse 1, 28, ceci. Regardez bien. Dieu les bénit. On parle de l'homme et la femme. Au moment où Dieu va créer l'homme et la femme, qu'est-ce qui va prendre place? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et eux, ils disent qu'on ne soit pas dispersés sur la terre. Ça ne va pas. L'ingrédient n'est pas bon. Le projet est bon. Le projet est noble. L'unité est correct, tout est bon, mais là, il y a désobéissance à un ordre clair de Dieu. Et puis pour faire plus, Dieu va faire une chose. Alors que le déluge va passer, je vous ai décrit l'histoire, c'est après le déluge, alors que le déluge va passer, Dieu va revenir à deux reprises sur cet ordre. À deux reprises, Genèse 9, verset 1, et plus loin au verset 7. Je ne les affiche pas, je ne sais pas si c'est affiché, mais juste les noter. Dans le chapitre 9 de Genèse, Dieu va revenir dessus. Au verset 1 et au verset 7, il va redire la même chose. Remplissez la terre. Alors que le déluge est passé et que vous êtes sortis de la barque, maintenant, remplissez la terre. Rien n'a changé. L'ordre est le même. Et eux vont venir, ils vont dire, restons entre nous, nous ne voulons pas être dispersés. Désobéissance à l'ordre de Dieu. Et là, le projet ne peut pas aller jusqu'au bout. Tour de Babel. Pentecôte. À la Pentecôte, on voit que Jésus, déjà dans acte 1, je crois que c'est au verset 8, il va leur donner cet ordre-là. Et Dieu n'a pas changé. Hein. 2300 ans après, Jésus va dire quasiment la même chose. Pour que vous soyez mes témoins, où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Remplissez la terre. L'ordre est le même. Comme quoi, il insiste là-dessus. Mais ça, c'est un autre message. Le tout ici, c'est de voir est-ce qu'on obéit ou on n'obéit pas. Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Acte 1, 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. C'est Jésus qui donne l'ordre. C'est lui qui va décrire le projet. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et ainsi de suite. Vous pouvez lire la suite. Ce qui va se passer, c'est que les disciples vont obéir. Les disciples vont partir alors que leur vie était en danger, alors que les gens cherchaient à les tuer, comme Jésus, parce qu'ils étaient en train de raconter que Jésus est ressuscité, et que les gens, les autorités de l'époque voulaient étouffer cela, comme si c'était une rumeur à étouffer. Ils ne voulaient pas que ce soit su, ils ne voulaient pas que les gens sachent que Jésus, le Jésus qu'ils ont crucifié 3 jours après est ressuscité. Donc toute personne qui disait que Jésus était ressuscité devait mourir. Leur vie était en danger et Jésus leur dit, vous restez dans ce Jérusalem-là. Donc, ils vont partir, ils vont obéir, malgré tout, ils vont obéir et ils vont rester à Jérusalem, ils vont aller dans une chambre haute et ils vont se mettre à prier ensemble. Le projet est bon, mais l'obéissance fait tout. Si ton projet, la nature de ton projet ou de tes actions peut être noble, ok, mais ce qui compte, les amis, c'est l'obéissance à Dieu. Et Dieu ne nous impose pas des projets chaque fois. Là, Jésus leur donne un ordre. Le projet est quand même clair. Mais quelquefois, Dieu nous laisse faire, la plupart du temps, puisqu'on est des êtres libres, hein, de décider. Dieu nous a créés ainsi. Hein. On n'est pas des robots. Que personne ne vous dise que vous êtes des robots. Dieu nous a créés libres de choisir. Et il dit, attention, choisis la vie et non la mort. Et donc, Dieu va nous laisser libres de faire nos projets. Soyons intentionnels, soyons entrepreneurs. On fait des projets, il crée une entreprise, on fait des projets. Et Dieu aime ça. Par contre, ce que Dieu fait chaque fois, c'est qu'il vient regarder. Il vient regarder. Et il est dit dans la parole, ici, quand vous lisez l'histoire de Babel, c'est la même chose. Dieu, le soir, va dire, allez, regardons, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les êtres humains? Et il plonge son regard, il voit le projet, ils sont unis, ils construisent une tour, il y a la science qui évolue, ils fabriquent du bitume, ils fabriquent des briques, c'est très bien, l'intelligence prend place, ça se développe, c'est top. Mais est-ce qu'ils obéissent? Et Dieu va juger le projet de l'homme parce qu'il n'y a pas d'obéissance à Dieu là-dedans. Donc tu peux avoir des projets, tu peux mettre en place des projets, mais est-ce que ton projet, je ne dirais pas en obéissance, mais plutôt, est-ce qu'il n'y a pas un son de désobéissance dans ton projet par rapport à ce que la Bible dit? Si tu as le moindre doute, il y a des gens autour qui peuvent t'aider. Si tu ne comprends pas, il y a des amis, il y a des responsables de groupes de maison et tout cela. Il faut se soumettre les choses les uns aux autres. Ah, j'ai un doute, j'ai un projet de mariage, est-ce que Dieu est là-dedans? J'ai un projet d'entreprise, est-ce que Dieu est là-dedans? J'ai un projet de voyage, est-ce que Dieu est là-dedans? J'ai un projet, je ne sais pas de quoi, est-ce que Dieu est là-dedans? Est-ce que je ne suis pas en train de désobéir à Dieu? Quelquefois, on se dit, je veux la volonté de Dieu. Je veux voir la volonté de Dieu pour agir. Et quelquefois, Dieu ne te montrera rien. Il ne te dira rien. Tu es libre de faire des projets. Mais sonde ton projet à la lumière de ce que Dieu dit et regarde si tu n'es pas en désobéissance à ce que Dieu dit. Et là, il y aura les conséquences de la Pentecôte et non pas les conséquences de la tour de Babel. Et les instructions de Dieu, on les connaît dans la parole de Dieu. Je ne connais pas toute la Bible. Je ne connais pas toute la Bible. Plusieurs ici ne connaissent pas toute la Bible. Si j'ai un doute, je vais voir mon frère. Là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et on peut changer. Et ça, c'est très bien. C'est comme ça. Dieu nous a mis les uns autour des autres pour qu'on puisse se forger ensemble. Et c'est cette unité-là qu'il veut. Dieu n'était pas contre l'unité à la tour de Babel, mais c'est le fait que, alors qu'ils étaient unis, il n'y a pas eu un seul qui a dit, hé les gars, on est en train de désobéir à Genèse 1, Genèse 9, 1 et 7. Il n'y a pas eu un seul qui l'a dit. Et là, le jugement, la sentence est tombée. On est gardiens de nos frères, les amis. Ce que j'ai envie de dire sur cette partie-là, c'est, je choisis d'obéir à ce que Dieu dit. Je choisis d'obéir à Dieu. Je peux le dire autrement, je choisis de ne pas désobéir à Dieu dans mes projets. Amen. Romains 6, 16 dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. En fonction de ton obéissance, ton chemin, on peut le deviner. J'ai envie de dire ceci, dis-moi à qui tu obéis et je te dirai quelle est ta finalité. En fait, c'est ça que la Bible dit. Deuxième point, on a parlé de l'obéissance qui fait la différence dans ces deux schémas-là. Le deuxième élément que j'ai noté, et on pourrait en noter plusieurs, le Saint-Esprit peut nous aider dans votre méditation quotidienne à cerner d'autres points, mais il y a ce deuxième point-là que je veux partager, c'est qu'est-ce qui est ma priorité ? Quelle est ma priorité dans mon projet, dans ma vie, dans ce que je fais ? Qu'est-ce que je mets en priorité ? Là, tout le monde a la réponse. Ben, c'est Dieu. Il faut mettre Dieu en priorité, exactement. Oui. Regardons Genèse 11, 3 à 4. Qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel ? Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, écoutez ça, ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous, nous, une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous, un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Nous, 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 moi, 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 où est Dieu dans ton projet ? Où est Dieu dans mon projet ? Et ça, le Saint-Esprit me disait, Gérard, quand tu as un projet, quelle est la place que tu me donnes ? Est-ce que la finalité, le but, ce que tu recherches, c'est d'abord toi, 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 toi ? Ou bien j'ai une petite place quand même que tu me fais dans ton projet. De cela va dépendre la réussite du projet ou pas. Et ça, ça fait la différence entre la tour de Babel et la Pentecôte. Le peuple avait une bonne intention, mais tout était tourné et centré sur eux-mêmes, et non pas centré sur Jésus. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il dit « premièrement ». Il ne dit pas « cherchez le royaume ». Il dit « premièrement ». Et quand il y a « premièrement », c'est qu'il y a « deuxièmement ». Il peut avoir troisièmement, etc. Mais ça veut dire une chose. Ça veut dire que, premièrement, le mot est clair, c'est priorité. C'est-à-dire mettre en priorité quoi ? Le royaume de Dieu et sa justice. La vie du royaume de Dieu. Et deuxièmement, tout le reste sera donné. C'est même pas deuxièmement, tu vas chercher à les réaliser. Mais tout le reste sera donné. Il y a une clé là-dedans. Si je mets Dieu en priorité, waouh, la Pentecôte va se produire. Si je mets Dieu en priorité, 3000 âmes vont se donner. Si je mets Dieu en priorité, ma maladie va passer. Ils se sont positionnés, ils sont là aujourd'hui. Si je mets Dieu en priorité, quelque chose va se passer dans ma vie. Mais si je me mets en priorité, quelle que soit la grandeur de la tour que je construis, je ne vais jamais la finir parce que la sentence va tomber. C'est dommage. C'était beau, mais malheureusement, ce n'est pas fini. Parce que j'ai mis un ordre de priorité inversé. Ça, c'est bon, ça. J'ai envie de dire, occupe-toi, ce verset-là, Matthieu 6, 33, on peut le dire comme ça, occupe-toi des affaires de Dieu. Et il s'occupera des tiennes. On le dit souvent, non ? Ça, en fait, c'est ça. On le paraphrase, mais c'est ça en clair. Occupe-toi d'abord des affaires de Dieu. Hein ? Et tu vas voir, il va s'occuper des tiennes. Parce qu'il dit, « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Bien sûr, il faut que ces choses-là soient dans la lignée de Dieu, soient selon le cœur de Dieu. Et ça ramène toujours au premier point, c'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas en désobéissance à Dieu par rapport à ce que je veux faire. Il faut toujours mettre cela à la lumière de la parole de Dieu. La Pentecôte, qu'est-ce qui se passe ? Là, on vient de voir à la tour de Babel cette priorité qu'ils ont mise. À la Pentecôte, c'est simple. Jésus leur dit dans Actes 1, 8, il leur dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous, il est en train de leur parler, parce qu'ici, on ne fait pas parler les disciples. C'est Jésus qui décrit le projet. Et eux vont obéir à ce projet. OK ? Donc, suivez bien. Il leur dit, et vous serez quoi ? Mes témoins. Pas vos témoins. Jésus leur montre clairement que, peu importe, ils ne parlent même pas de leur sécurité, là. Les gars peuvent se faire tuer. Et il est en train de leur dire, vous serez mes témoins. Et il revient à Genèse 1, 28. Il revient à Genèse 9, 1. Il revient à Genèse 9, 7. Et il leur dit ceci, « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce qui fait que toi et moi aujourd'hui, on a reçu Jésus, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mis la parole de Dieu en priorité et qui ont suivi cela, ce qui fait que toi et moi aujourd'hui, on peut être sauvés. Ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre et des Gaulois de naissance comme pas de naissance ont peuvent accepter Jésus aujourd'hui, jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, le message de Dieu est le même depuis Genèse 1, 28. C'est fou. Allez-y, remplissez la terre. Remplissez la terre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les disciples? Les disciples ne vont pas regarder à leur propre personne. Les disciples vont remonter dans la chambre haute. Acte 1, 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, c'est-à-dire toute la famille, tous ceux qui connaissaient Jésus étaient là, tous les disciples étaient là, ils étaient environ 120, et ils étaient là, ils persévéraient dans la prière, ils ont mis Dieu en priorité, ils persévéraient dans la prière, le projet de Dieu est en priorité, et là quelque chose va se passer, le Saint-Esprit va descendre. En fait, c'est comme à la tour de Babel. À la tour de Babel, Dieu est descendu, il a regardé, il a jugé. Bam. Baptême dans le Saint-Esprit, entre guillemets. Ils vont se mettre à parler plusieurs langues. Non, ce n'est pas un baptême dans le Saint-Esprit. C'est une dispersion, une confusion par le parler en langue, de multiples langues. Et ça, ça va se produire. Mais Dieu va venir à la Pentecôte, il va jeter le regard, il va le voir, il va dire les ingrédients sont là, l'obéissance, la priorité et bien d'autres mot encore que vous pouvez rajouter là-dessus dans votre méditation. Dieu va juger, il va peser cette situation, il va dire, waouh, c'est bon, j'envoie mon esprit. Et j'aime l'humour de Dieu, quoi. C'est fou. Et ça, ça me parle énormément. C'est-à-dire que l'outil qu'il a utilisé pour punir, pour mettre la confusion, pour disperser, pour séparer, pour désunir, pour juger la désobéissance de l'être humain, 2300 ans après, il utilise le même outil pour sauver, pour libérer, pour apporter une unité même dans la diversité. Vous voyez l'humour de Dieu ? Babel, Pentecôte. Si tu as vécu du Babel, si ta désobéissance, ton manque de priorité ou bien d'autres choses t'ont envoyé à vivre des conséquences, Dieu est en train de dire au travers de ce message que je peux changer ton Babel pour que tu vives la Pentecôte. La situation dans laquelle tu es tombé et que la culpabilité est sur tes épaules, est sur toi, le Saint-Esprit te dit, hey, je change les temps et les circonstances, je peux le faire et je vais le faire. C'est comme quand Daniel le dit dans Daniel 2, je crois, 1 à 2, il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. La même diversité de langues qui a créé la confusion est la même diversité de langues qui va apporter la conversion. La même diversité de langues qui a créé la dispersion, c'est cette même diversité de langues qui va apporter l'unité dans la diversité. C'est dingue ça. 2300 ans après, c'est comme si, je ne veux pas le dire comme ça, mais c'est comme si Dieu était en train de, pas de corriger, mais de remettre les choses dans l'ordre. Il y a eu un problème que tu as vécu, tu es dedans, Dieu te dit, le problème dans lequel tu es, avec les conséquences que tu vis, crac, je peux le changer et tu vas vivre la Pentecôte. Amen. C'est bon ça. 2 Chroniques 7, 14 dit d'ailleurs que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, c'est pas fini. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors il y a quelque chose qui se passe, les ingrédients sont rassemblés, qu'est-ce qui se passe? Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu est celui qui pardonne et qui guérit. Il y a ainsi. Et c'est le choix que tu fais. Est-ce que tu choisis de rester dans la tour de Babel ou tu choisis d'être dans la chambre haute à la Pentecôte? Il y a un choix. J'aimerais vraiment que ces deux histoires mises en parallèle puissent nous parler. La tour de Babel nous parle aussi de la contrefaçon. On essaie de faire des choses qui ne sont pas vraiment de Dieu. Tout cela, je prie que le Saint-Esprit nous l'amène à l'esprit, dans notre esprit, et qu'on puisse se dire, malgré la tour de Babel que j'ai vécue, aussi longtemps que j'ai demeuré dans une tour de Babel, 2300 ans après, Dieu est capable d'utiliser les mêmes éléments pour contourner, pour renverser la situation. Amen. Ne reste pas bloqué à ta tour de Babel, s'il te plaît. C'est le cœur de Dieu. Ne reste pas bloqué à ta tour de Babel. Arrête de dire, j'ai péché, j'ai été mauvais, j'ai pris les mauvaises décisions, j'ai pris les mauvaises directions dans mon projet, j'ai pris les mauvais projets. Arrête de te culpabiliser parce que Dieu veut t'amener à la Pentecôte. Il va changer les choses. Ça parle plusieurs langues. Oui, c'est la conséquence du péché, de la désobéissance. Mais au travers de ce plusieurs langues, là, Dieu va te bénir. En fait, Dieu veut changer la malédiction en bénédiction. Dieu veut changer la tristesse en joie. Dieu veut changer l'inquiétude en paix. Dieu veut changer la mort en vie. Et il peut le faire. Et c'est pour cela qu'il le montre au travers de ces deux exemples et il dit, regardez ce que j'ai fait. J'ai la capacité d'utiliser le même élément et d'en faire autre chose désormais. Et puis au final, c'est Dieu qui gagne parce qu'il atteint son objectif. Remplissez toute la terre. Et cette fois-ci, c'est remplissez toute la terre. Annoncez l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, on est là. La preuve de ce que Dieu a accompli. Ne laisse rien ni personne te bloquer à la tour de Babel. Ça, j'insiste là-dessus. Ne laissons rien ni personne nous bloquer dans la tour de Babel. Ce n'est pas parce que tu vas faire 21 jours de jeûne que tu vas sortir de la tour de Babel. C'est faux. C'est parce que Jésus t'a aimé qu'il a donné sa vie à la croix. Il a payé. Il faut juste faire un pas. Le pas, il est simple. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, et on prie pour toi, et on prie les uns pour les autres. Il fait quoi? S'humilie. Il prie. Il se détourne de ses mauvaises voies. Il demande pardon. C'est tout, hein? C'est tout, hein? Donc, ne laisse personne te bloquer par la religion dans la tour de Babel. Sors de ta tour de Babel, car Dieu t'a déjà emmené à la Pentecôte. Jésus est déjà mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. C'est bon. C'est fini, tu as la vie, tu as la victoire sur le passé et sur la tour de Babel. Ne reste pas dans la tour de Babel, s'il te plaît. Amen. Je vais demander au groupe de louanges de venir, j'ai fait plus court, mais on va prendre un temps et le message, il est simple, c'est que forcément dans nos vies, on a peut-être connu la tour de Babel. On a pris de mauvaises décisions et on vit des conséquences quelquefois. Dieu connaît tellement. Parce que vous savez quoi? Dieu plonge son regard chaque fois sur le projet des gens. Hein, et il vient regarder, il est intéressé par ce que tu fais. Hein. Ne dis pas, est-ce que Dieu s'intéresse même à moi? Mais qui que tu sois, Dieu t'a créé à son image et il ne peut pas te laisser vivre comme ça sans regarder ce que tu fais. Dieu regarde toujours ce que tu fais et ton projet l'intéresse. Et ça, c'est bon, ça. Et même si, quelquefois, ton projet a été jugé, si, par exemple, tu ne connais pas Jésus, tu n'as jamais vécu avec Jésus, tu as vécu ta vie comme tu voulais et que tu vois des conséquences dans ta vie et tu dis, il y a un vide tous les soirs quand je vais me coucher, c'est quoi ce vide? Dieu dit, je peux changer ta vie. Si tu te donnes à moi, tu vas devenir mon enfant et tu vas vivre autre chose. Tu vas avoir les bénédictions de la Pentecôte. Ça, c'est bon, ça. Ce message est à la fois pour de vieux chrétiens de plus de 40 ans et pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus. On est tous qualifiés pour recevoir ce message aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse juste fermer les yeux et... Oh, Jésus. On va prendre ce chant-là et après je lancerai un appel. Je crois qu'il y a deux appels et on va avoir l'occasion d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes et de regarder ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je suis dans Genèse 11 ou bien je suis dans Acte 2? Est-ce que je suis à la tour de Babel ou bien je suis à la Pentecôte? Mais la situation n'est pas définitive. Si tu es à la tour de Babel, si tu n'as pas encore fait le pas, tu peux être à la Pentecôte aujourd'hui. Vous savez, la Pentecôte, c'était quoi? C'était la fête des moissons. Ça, c'est important de savoir. Et Dieu, dans son humour, en fait, dans son calcul, va permettre que le Saint-Esprit vienne ce jour-là. Et la fête des moissons, c'est quoi? La moisson, c'est quand, sur le plan agricole, on va récolter ce qu'on a semé pendant un temps. C'est-à-dire quoi? On fait une fête pour l'abondance. On fait une fête, on se réjouit parce que, waouh, il y a de l'abondance, il y a de la bénédiction. Comme pour dire quoi? Dieu va transformer la malédiction en bénédiction. Et il va le faire le jour où tu fêtes la bénédiction. En fait, Dieu veut que aujourd'hui tu fêtes la bénédiction dans ta vie. Et que la malédiction s'éloigne. Et que la tour de Babel s'éloigne. Oh, des gens ont pu dire des paroles sur toi, tu es incapable. Quelquefois, c'est les parents. Faisons attention, nous les parents. Mais qu'est-ce que tu es nul? Mais tu ne vas jamais y arriver, toi. Il y a des gens qui ont entendu ça. Je l'entends là dans mon cœur. Tu ne vas jamais y arriver. Tu ne vas jamais y arriver. Et tu as cru. Et tu as cru. Et tu as cru. Et tu as cru. Et à force de croire, ton corps s'est aligné sur cette parole de malédiction et a commencé à vivre la tour de Babel. Dieu dit qu'aujourd'hui, c'est la moisson, c'est le jour de l'abondance. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour où tu prends possession de ce que Dieu a dit sur ta vie. Et tu sais ce que Dieu a dit sur ta vie? Il le dit dans Jérémie, je crois, chapitre 11, 29 ou 29, 11, peu importe, je me trompe peut-être, mais il dit ceci. Voici le projet que j'ai formé sur vous. Le projet que j'ai formé sur vous. Un projet de vie, un projet de paix pour te donner de l'espérance et un futur. Je crois en cela. On va chanter ce chant ensemble et on va prier ensuite après. Merci Seigneur.